Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Une légère sensation de picotement peut intervenir. Si la gêne persiste, vous épongez et vous appliquez rapidement la crème anti-rougeur Sérénité en couche épaisse. Avec ce peeling, on va décaper. On va redonner à la peau un peu de sa mémoire. On va lui donner un deuxième souffle.
Si l'on en croit cet extrait, la beauté, ce serait simple comme un pot de crème. Et ça marche plutôt bien pour la France dans le domaine. Le pays est leader mondial de la cosmétique. Ses exportations ont battu un nouveau record en 2019 avec plus de 15 milliards d'euros de ventes. Mais voilà, depuis, il y a eu 2020. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va s'intéresser aujourd'hui à l'impact de la crise sanitaire sur le marché et les habitudes de la beauté. La France a les plus beaux fleurons de la cosmétique. Leurs promesses couvrent les pages des magazines et tapissent les duty-free des aéroports du monde entier. Un univers lisse que rien ne semblait pouvoir troubler. Un marché mondial qui continuait de surfer sur une croissance dans les 5% par an. Mais ça, c'était avant 2020, parce que depuis, faute de sortie, les ventes s'en sont ressenties.
Comme vous le dites, on est peu sortis. Et en plus, les magasins étaient fermés. Je parle des grandes enseignes de parfumerie et des points de vente des marques.
Dominique Chapuis est journaliste en charge de la mode et du luxe aux Échos.
Seuls les supermarchés étaient accessibles. Du coup, les effets, ça a été que le marché de la cosmétique, tout circuit confondu, a reculé de 5,4% en 2020. Ce sont les chiffres que donne Kantar. Et ça, c'est une première depuis 3 ans. Les volumes, en revanche, sont restés stables. Ça veut dire que les Français, en fait, en nombre, ont acheté autant de produits qu'avant la crise sanitaire, mais à des prix plus bas. On a donc assisté à un phénomène de dévalorisation du marché de la cosmétique. Bon, en même temps, c'est plutôt logique, car encore une fois, seule la grande distribution avait ses magasins ouverts et en faisant leurs courses alimentaires, les gens en ont donc profité pour acheter leurs produits d'hygiène.
Est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs qui ont provoqué ce recul ?
Le port du masque, effectivement, n'a pas favorisé la vente de maquillage, hein, sauf des yeux, finalement. Et puis, en même temps, après avoir explosé au niveau mondial il y a quelques années, le recul du maquillage est amorcé depuis 5 ans environ. On avait une explosion qui avait été liée aux selfies, hein, et cette mode de faire des photos sur les réseaux sociaux. Alors depuis, cette tendance est un petit peu amenuisée. Et peut-être qu'aussi, tout ce qui est le naturel, la volonté d'une beauté plus saine et plus simple aussi jouer sur le secteur. Et puis, il y a un autre segment qui a été impacté, c'est le parfum. Là, le recul est plutôt lié au télétravail, en sa généralisation, notamment chez les cadres, fait que les femmes ont eu moins envie de se parfumer parce qu'elles restaient chez elles.
Est-ce que la façon de se maquiller ou de prendre soin de sa peau a évolué, ce qui expliquerait les changements du marché ?
Oui, il y a aussi un changement des usages, des comportements, si on peut dire. La routine beauté des femmes a changé. Elles utilisent de moins en moins de produits chaque jour pour sortir. Il y a ce qu'on appelle la slow cosmétique, c'est-à-dire que c'est un label, hein, si c'est une association qui porte ce nom, et puis c'est aussi un phénomène de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme sur 5 se maquille tous les jours contre 42% il y a 4 ans. Donc, on voit bien que les choses ont changé. Alors après, ça ne veut pas dire que ces phénomènes vont s'inscrire dans la durée. Hein. Il y a quelques semaines, le nouveau patron de L'Oréal, Nicolas Hieronymus, faisait remarquer qu'en Chine, où la pandémie a décéléré beaucoup plus rapidement qu'ailleurs, et puis aussi en Israël, où la vaccination est très avancée, depuis, les achats de maquillage ont explosé. Donc, soyons prudents sur les effets sur le long terme et voyons comment ça se passe après la crise sanitaire.
Il y a des produits qui ont particulièrement plongé ou particulièrement monté, parce que bon, on imagine bien, c'est vrai qu'avec le masque, donc on voit les yeux, mais on ne voit plus la bouche. Est-ce que ça se ressent sur les rouges à lèvres, par exemple ?
Alors, ce qui a cartonné, ce sont les produits d'hygiène, c'est-à-dire le savon, les gels douche, les gels hydroalcooliques. Chacun voulait évidemment éviter la contagion en se lavant les mains le plus souvent possible. Le rouge à lèvres, lui, effectivement, a sombré parce que, bon, sous le masque, bon, on voit pas tellement l'intérêt d'en mettre. Et les ventes de mascara, elles, en revanche, ont plutôt progressé.
Est-ce qu'il y a aussi un phénomène qui fait que les produits vont dans le sens de la qualité, c'est-à-dire qu'on achète moins, mais plus bio, ou des produits plus cher, mais en tout cas qu'on est plus regardant à tout ça?
Alors, je répondrai oui et non à la fois, puisque l'étude de Kantar montre en effet que les achats se sont portés plutôt sur des produits moins chers en 2020. C'est vrai qu'un savon, ça coûte moins cher qu'un parfum, hein, et ça, c'était effectivement lié à la crise et à la fermeture des parfumeries, comme je vous l'ai dit. Dans le même temps, on assiste à une demande plus forte de produits plus naturels ou bio. En fait, les gens sont de plus en plus sensibles à la composition des cosmétiques. Ils veulent savoir un petit peu ce qu'ils se mettent sur le visage, ils veulent être rassurés. Du coup, ils se tournent vers des produits plus sains, plus naturels, avec aussi moins de conservateurs. Et ce qu'on appelle la clean beauty a le vent en poupe. Donc, ça oblige des groupes, hein, les géants mondiaux, à revoir aussi leur formulation de produits pour justement mieux coller à ces attentes.
Alors, on l'a vu, les confinements ont ramené au goût du jour la cuisine, le fait maison. Est-ce que c'est pareil dans la beauté? On est en quête de vrai?
Oui, effectivement. La priorité, bon, ce sont surtout les produits qui vont vers le bien-être, vers la santé. Il y a aussi un besoin de transparence, et ce qui explique un phénomène qui monte mais qui reste encore marginal, c'est le fabriquer soi-même à la maison, un peu comme on fait ses propres plats chez nous aujourd'hui. Donc c'est Aromazone qui était un des pionniers de ce qu'on appelle le do it yourself qui en a bénéficié. L'entreprise a passé le cap des 100 millions d'euros en pleine crise alors qu'elle en faisait 80 millions en 2019 grâce à des commandes massives qui sont reportées sur Internet. En un an, ils ont récupéré 350 000 nouveaux clients. C'est énorme, et des clients qui sont en plus restés fidèles. Donc voilà, c'est un phénomène qui remonte déjà à quelques années, mais là, qui touche de plus en plus de gens, et quel que soit le milieu social et quel que soit l'âge aussi.
Oui, donc on peut parler d'une vraie success story en temps de Covid pour Aromazone, mais si c'est en partie grâce au digital, est-ce que ça veut dire que le secteur est à un point de bascule?
La crise, comme dans beaucoup de secteurs, elle a surtout montré qu'Internet pouvait être un relais de croissance, même s'il n'a pas pu compenser les pertes liées aux magasins physiques. Kantar estime qu'aujourd'hui, le digital représente environ 10% des ventes du secteur, soit presque 2 points de plus que l'année précédente. Mais le marché de la beauté est en retard, comparé à d'autres secteurs, car bon, c'est pas facile, hein, vous en conviendrez, d'acheter un parfum sur un écran. On a envie de le sentir avant tout. Mais il y a quand même beaucoup d'initiatives qui se sont multipliées ces dernières années, que ce soit des marques ou des enseignes pour lever ce frein. Et par exemple, certaines marques envoient des échantillons en même temps qu'elles envoient le flacon de parfum à la cliente. Et s'il ne plaît pas, et ben, du coup, on peut le renvoyer. Donc ces initiatives peuvent peut-être favoriser un recours au digital qui s'inscrira plus sur le long terme, sur ce secteur de la cosmétique.
Le digital pourrait donner un nouveau souffle commercial au monde de la beauté, alors même qu'il le transforme en profondeur. Dans la recherche du selfie parfait, à la surcharge de maquillage a succédé une batterie de filtres qui font le travail. Mais parfois, ce n'est pas encore assez, et ils sont nombreux à passer à un cran supérieur.
Après la pandémie, après le télétravail maximal, quand vous reverrez vos collègues de bureau, auront-ils un nouveau visage au sens propre? C'est bien possible. La chirurgie esthétique est en plein boom. Les restrictions que l'on subit depuis un an n'y sont pas pour rien. Alors, cette tendance nous a interloqués, nous l'avons vérifié et c'est vrai, le monde d'après sera en partie refait.
Depuis la pandémie et le recours au télétravail, le monde est entré dans l'ère de Zoom, de Skype et autres Teams. L'expérience de la caméra s'est généralisée et le rapport à notre image s'en voit bouleversé. Les consultations de médecine et de chirurgie esthétique, elles, se sont envolées. Rendez-vous à la clinique des Champs-Élysées, à Paris, la première d'une chaîne qui a commencé à s'étendre en France et à l'étranger. La salle d'attente ne connaît pas de répit. J'ai demandé à Tracy Cohen-Sayag, la directrice générale, si après les confinements, elle avait constaté un effet sur les rendez-vous.
Oui, on a constaté au départ, hein, après le 11 mai, après le premier, tout premier déconfinement, où on a dû fermer nos portes complètement pendant 2 mois, entre 40 et 50% de croissance sur les mois de mai, enfin mi-mai à mi-juillet. Et puis ensuite, ça s'est stabilisé à peu près aux alentours de 30% de croissance qui se sont maintenus, hein, et toujours à l'heure actuelle, on constate par rapport à l'année dernière, plus 30% de croissance. globalement, on passe pas sa vie devant son miroir à s'observer, alors que quand on est en télétravail, et la plupart du temps, on laisse la caméra allumée, puisque sinon, c'est vraiment désagréable de devoir avoir des meetings toute la journée et de pas pouvoir voir notre interlocuteur. Et du coup, on voit effectivement nos interlocuteurs, mais on a aussi toujours le reflet de notre propre image. Et cet impact a eu, on l'a vu à travers les enquêtes de satisfaction qu'on a menées ces 12 derniers mois pour comprendre aussi cette nouvelle demande, ces nouveaux patients qui fréquentent nos établissements. Et 3 patients sur 4 vont nous répondre que c'est l'impact de la visioconférence, du télétravail, qui est en grande partie responsable finalement de la perception de petits complexes qu'ils n'avaient pas forcément perçus auparavant, ou alors tout simplement qu'ils ne les gênaient pas avant.
Mais tout le monde ne pratique pas la visioconférence. Y a-t-il d'autres facteurs qui peuvent expliquer ce boom ?
Depuis le déconfinement, on a mis en place ces enquêtes justement afin de comprendre dès le premier jour finalement d'ouverture un petit peu l'état d'esprit des gens, à la fois sur le plan psychologique et aussi sur le plan humain. Et toute cette année, on a suivi de près, finalement, les patients qui sont venus pour la première fois. Donc, les 30% de croissance, finalement, qu'on voit, sont à plus de 80% des nouveaux patients qui n'avaient pas avant franchi le cap de mettre le pied dans un établissement de médecine ou de chirurgie esthétique. Et donc, c'est ces patients-là qui m'ont intéressé plus particulièrement pour essayer de comprendre, justement, est-ce que c'est une démarche qui va être stable dans le temps ? Est-ce que c'est vraiment juste l'impact de cette pandémie ? Et puis, il y a tout un tas d'autres choses, puisqu'il y a également la possibilité, en fait, de profiter de cette période où on est en télétravail ou en chômage partiel. Et donc, si on avait un peu d'a priori avant, de préjugés, ou qu'on avait un peu peur, finalement, de faire un acte et que ça se voit, on va dire que c'est l'occasion idéale de pouvoir, pour la première fois, en fait, se lancer sans avoir trop peur des répercussions. Les masques également, puisque ça cache quand même la moitié du visage quand on doit quand même aller au boulot. Et puis le budget, entre guillemets, qui est peut-être disponible cette année, puisqu'il n'y a pas de vacances, pas de restaurant, pas de cinéma, pas de voyage, pas de culture.
Et sur les soins demandés, vous avez également un effet ?
Le corps n'a pas non plus été exclu du tout. Mais c'est vrai qu'il y a plus de 65% des traitements qui concernent le visage. Et surtout le regard. Le regard, ce sont des traitements qui ont été énormément boostés justement par cette crise, puisque le port du masque fait qu'on a besoin finalement d'être beaucoup plus expressif et de donner le meilleur de soi-même juste avec le haut du visage. Donc le front, le contour des yeux, les sourcils, les cils. On le voit pas que dans notre activité d'ailleurs, puisqu'on a beaucoup d'instituts de beauté qui en ont parlé, de la demande sur les sourcils, sur le regard, sur le maquillage autour des yeux. Donc voilà, le regard est devenu aujourd'hui incontournable, puisque souvent, c'est finalement aujourd'hui la seule chose qu'on voit.
Quand on utilise un filtre, on a plusieurs effets qui se font sur notre visage. Déjà, on a l'impression d'être plus jeune, tout simplement parce que le teint est parfait, on n'a pas une cerne, on n'a pas une seule imperfection, et tous les traits sont liftés vers le haut du visage. Pour réaliser un maquillage effet filtre, il faut vraiment réussir à tirer la peau comme ça du visage pour avoir l'air beaucoup plus jeune.
Qui sont la majorité des patients de la médecine esthétique ? Quelles sont leurs motivations ? Et est-ce que ça évolue ?
Si on regarde un petit peu l'évolution du marché de la médecine esthétique ces 5 dernières années, c'est un secteur qui est en croissance, ça c'est clair. Mais la proportion, enfin la plupart des patients en fait qui justement participent à cette croissance sont des patients de moins de 35 ans depuis ces 5 dernières années. Et on l'explique facilement. Puisqu'il y a eu pas mal d'études qui ont montré la corrélation entre le fait que ces patients soient jeunes et l'utilisation et des réseaux sociaux les 5 dernières années et le fait que finalement, à force de se voir à travers les petites applications, Instagram, Snapchat, et de surtout de se voir avec des filtres, on est rentré en fait dans un monde où effectivement on a envie, parce que les patients, les moins de 35 ans viennent nous voir, en ayant envie finalement d'avoir une peau filtré sans filtre, d'avoir les regards un peu de biche comme on peut avoir sur certains filtres. Enfin, voilà, donc ça, c'est les côtés un peu négatifs finalement des réseaux sociaux, c'est qu'à force de se voir avec un visage qui est un petit peu modifié chaque jour, on en vient à ne plus aimer ou avoir envie en tout cas de ressembler à ce visage, même sans filtre. On est passé de 8% de patients de moins de 35 ans à plus de 50% des patients qui ont moins de 35 ans en 10 ans. Donc le phénomène, il est évident et aujourd'hui, un patient sur deux qui est en salle d'attente a moins de 35 ans. Mais depuis un an, depuis le déconfinement, les 30% de croissance sont essentiellement sur des patients qui ont plus de 35 ans cette fois. Et donc c'est là que c'est assez intéressant et qu'on voit donc directement l'impact des écrans et le reflet de soi-même. C'est que finalement, c'est pas que les jeunes qui sont sensibles à leur image. C'est une tendance qui est mondiale, qui est globale et qui vraiment visiblement impacte tous. Ce qui expliquait, entre guillemets, les 5 dernières années, la croissance de ce segment. Et aujourd'hui, on le remarque sur les plus de 35-40. Donc je pense que la corrélation est évidente. La visioconférence a eu le même impact finalement sur les plus de 35-40 que les réseaux sociaux ces 5 dernières années sur les jeunes.
Alors, quel est le motif de votre visite, monsieur ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
Alors, moi, ce que je voudrais, Comment je vais dire? Là, j'ai l'impression que mon extérieur, donc mon faciès, on va appeler ça comme ça.
Votre visage.
Ouais, mon visage n'est plus en phase avec le Danny qui est à l'intérieur.
Miroir, mon beau miroir, tu n'es donc plus le seul à renvoyer l'image des êtres. Un changement que le monde de la beauté et de l'esthétique enregistre. Gare cependant à la dysmorphophobie, chez les jeunes notamment. C'est ce trouble obsessionnel compulsif qui conduit à se préoccuper exagérément d'un défaut physique mineur ou inexistant. Les filtres à selfie n'y seraient pas étrangers. Merci à Dominique Chapuis, journaliste aux Échos, et merci à Tracy Cohen-Sayag de la Clinique des Champs-Élysées. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willigan. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.